m'avez manqué.
Je vais ce soir vous faire désirer et aimer la République.
La bête de l'événement est là.
La République, c'est moi.
Je vous demande de vous arrêter.
Non, il ne faut pas tomber dans un extrémisme extrême.
Non, avec courtoisie.
Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin.
Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les.
Calme, au secours.
Voilà, bah c'était un peu l'envie de vomir sur ces ordures. Enfin, pardon.
Vous êtes sur Radio Courtoisie.
Bonjour, chers auditeurs. Heureux de vous retrouver en compagnie de toute l'équipe de Restons Courtois du vendredi soir, 17h30, 19h30. Émission réalisée en partenariat avec Boulevard Voltaire, le grand quotidien de la France droite. Mais ça, vous le savez, c'est parti pour 2 heures avec ce soir trois voix subtiles et à droite pour observer l'envers de l'actualité de notre cher et vieux pays. Damien Chalamel, avocat spécialiste de la propriété intellectuelle, il est là, vous le connaissez. Bonsoir Damien.
Bonsoir cher Marc, chers auditeurs.
Franck Herriot, journaliste et écrivain, spécialiste de la police et de la justice, et ça tombe pas mal. Bonsoir Franck.
Bonsoir tout le monde.
Gérard Gachet, ancien directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, ancien porte-parole du ministère de l'Intérieur, adjoint au maire du 16e arrondissement de Paris, j'en oublie, non, Gérard Gachet?
Oui, ce serait trop long.
Vous pouvez, bonsoir, chers auditeurs, nous appeler au 01 46 51 00 85 ou nous envoyer vos courriels à courtoisie@rc.fr. Les valeureux bénévoles de Radio Courtoisie attendent vos messages. On essaiera de les lire tous à l'antenne dans la mesure du possible. Vous êtes tous les bienvenus au programme. Aujourd'hui, une émission spéciale, une émission après ce drame. Nous allons parler durant presque toute l'émission de l'ultra-gauche qui a aujourd'hui un mort sur la conscience, si tant est qu'ils en aient une. Donc, le programme du jour, quand Raphaël Arnaud évoquait à l'Assemblée les violences de l'extrême droite. Raphaël Arnaud, vous savez, c'est le patron, l'ancien patron de la Jeune Garde devenu député. Et puis, donc, aujourd'hui, une spéciale, l'extrême gauche. Gauche tue qui la protège. Notre grand invité Olivier Vial, directeur du Centre d'études et de recherches universitaires, c'est un laboratoire d'idées universitaires. Il est responsable du programme sur les nouvelles radicalités. Nous analyserons les conséquences politiques de ce drame avec le politologue Arnaud Benedetti. Et puis, nous parlerons de l'enquête en cours avec l'ancien patron de la PJ, de la police judiciaire, Christian Flech, qui nous rejoindra avant 19h, et puis nous aurons notre traditionnel clin d'œil culture à la fin de l'émission. Mais auparavant, notre traditionnel tour d'actualité. Chers amis, qu'est-ce qui, nous, les chers amis éditorialistes, qu'est-ce qui vous a frappé cette semaine? Quelles sont les actualités que vous avez relevées, en dehors évidemment de celles dont nous allons parler abondamment aujourd'hui? Franck Herriot, tiens.
L'arrestation, la garde à vue de Monsieur Windsor, enfin Mountbatten Windsor.
C'est
les suites de l'affaire Epstein, mais alors on n'est plus dans la pédocriminalité, mais dans les soupçons, je dirais presque d'espionnage. Et pourquoi j'ai retenu ça? Parce que c'est historique. Enfin, quand a-t-on vu pour la dernière fois, j'allais dire, un membre ou un ex-membre de la famille royale britannique arrêté en garde à vue pour avoir... Il est entendu pour faute professionnelle dans l'exercice de fonctions publiques. En fait, il aurait refilé des documents confidentiels à M. Epstein sur le commerce, parce qu'il était représentant de commerce en fait, pour la couronne, pour la Grande-Bretagne. Il aurait exfiltré des documents qui étaient confidentiels. Donc, c'est une faute très grave, d'autant plus pour un personnage comme lui. Enfin,
d'autant que ce n'est pas la seule, si on a bien compris.
Oui, ça s'ajoute au reste, oui, effectivement.
Ouais. Gérard Gachet.
Ben moi, pour sortir effectivement un peu de temps du drame de l'affaire Quentin, ce matin, une déclaration de Mme Marie-Lise Léon. Vous n'êtes pas obligé de savoir qui est Marie-Lise Léon.
Non.
C'est la secrétaire générale de la CFDT.
J'ai vécu jusqu'à un âge avancé sans le savoir.
Ben voilà, c'est la secrétaire générale de la CFDT. Même, Et on sait très bien qu'on n'a pas actuellement ce qui se fait de mieux en matière de personnel politique ou syndical. Mais là, elle a quand même fait assez fort puisqu'elle a déclaré sur la chaîne parlementaire que la préférence nationale, c'est de la stigmatisation, de la division du monde du travail et un tri des travailleuses et des travailleurs, ce que nous ne voulons pas. Alors elle a juste oublié, elle a ajouté d'ailleurs qu'elle avait en revanche aucun problème pour avoir des discussions avec la France Insoumise, avec LFI. Mais pour revenir sur la préférence nationale, elle a quand même oublié que ça a fait partie du droit social français pendant un certain nombre d'années, de décennies, puisqu'au XIXe siècle, il y avait déjà des dispositions pour protéger la main-d'œuvre nationale, comme on disait, et qu'effectivement, en 1931, M. Roger Salingros, qui était socialiste, enfin, la SFIO à l'époque, avait proposé une proposition de loi sur la protection de la main-d'œuvre nationale, et que l'année suivante, en 1932, sous le gouvernement de M. Herriot, qui était radical donc à l'époque, une loi a été
adoptée. Qui n'était pas l'oncle de Franck Herriot,
pas du tout. Pas du tout. Le 10 août 1932, une loi là aussi de protection de la main-d'œuvre nationale a été adoptée. Elle ne sera abrogée qu'en 1981 par François Mitterrand. Puisque c'est après la Seconde Guerre mondiale, il y a un certain nombre de textes de la Commission européenne des droits de l'homme, de l'ONU, etc., qui ont interdit la préférence nationale. Mais contrairement à ce que dit Mme Marie-Lise Léon, ça a fait partie très très longtemps du socle du droit social français, et dans d'autres pays aussi d'ailleurs également.
Excellente et utile mise au point. Merci Gérard Gachet. Damien Chalamel.
Moi, ce qui m'a frappé, c'est en fait un événement qui vient de survenir. C'est aux États-Unis, mais qui a des conséquences directes sur l'économie française, puisque c'est la Cour suprême des États-Unis qui déclare illégale la quasi-totalité des droits de douane prohibitifs ordonnés par le président Donald Trump. Voilà, donc je trouve que ça témoigne à la fois de la vivacité de la démocratie américaine et de la réalité de ce que c'est qu'une stricte séparation des pouvoirs, par des juges qui sont par ailleurs connus pour étant notoirement, majoritairement conservateurs, nommés pour l'essentiel sous les mandatures de Donald Trump, la première comme la deuxième. Donc on va vers un rebondissement. Alors c'est à la fois une bonne nouvelle pour les Européens et les Français en particulier qui exportent. Et puis c'est le signe d'une démocratie, parce que bien évidemment les droits de douane, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas être modifiés, mais nous dit apparemment la Cour suprême, effectivement c'est au Parlement
de le faire,
au législatif de statuer, donc d'ordonner l'augmentation ou la réduction de ces droits de douane.
Le président peut proposer, mais ça doit être approuvé.
Oui, voilà, ça ressort du législatif. Quoi. Alors, sauf exception, et l'exception dans laquelle s'était engouffré Donald Trump et qui n'est pas...
Donc a priori tous les droits de douane,
la quasi-totalité, sauf sur certains secteurs très spécifiques.
Est-ce qu'il faudra rembourser
on ne sait pas. Alors ça c'est une...
pas rétroactif en principe.
Est-ce que les États-Unis rembourseront ce qu'ils ont perçu ?
Une taxe illégale, moi ça ne me surprendrait pas qu'elle soit remboursée. Ça donne un droit au moins des crédits d'impôt, j'en sais rien. Je sais pas.
Écoutez, alors là, c'est la divine surprise pour nos amis du budget. Ils n'avaient certainement pas prévu
ce producteur de vin et spiritueux aussi, notamment.
Voilà. Allez, édito. Quand Raphaël Arnaud, le patron de la Jeune Garde, évoquait à l'Assemblée les violences de l'extrême droite.
Restons courtois avec Marc Baudrier et Boulevard Voltaire.
C'était le lundi 3 avril 2023. Il y a donc presque 3 ans. À 16h, la présidente de séance ouvre la séance, justement. Au menu, une préoccupation obsessionnelle et urgente de la NUPES, la lutte contre le terrorisme d'extrême droite. Parmi les experts dûment choisis par la NUPES, Patrick Baudouin, avocat et président de la Ligue des droits de l'homme, Erwan Lecoeur, sociologue d'ultra-gauche, ex-directeur de la communication auprès du maire rouge-vert de Grenoble, Éric Piolle, et Raphaël Arnaud, présenté comme le porte-parole de la Jeune Garde. En 2023, la Jeune Garde a déjà beaucoup fait parler d'elle. Raphaël Arnaud est déjà dûment fiché S, ce que personne ne sait encore. Pour ménager nos sources et à leur demande, nous avions écrit dans un article du 4 avril 2023 que l'homme est
connue de la documentation des services de police. Arnaud revendique sur X de nombreuses actions coup de poing, saluées comme ici par LFI. Mais dans l'enceinte du Palais Bourbon, ce 3 avril 2023, Raphaël Arnaud est reçu comme un oracle. Il boit du petit lait, il donne des leçons, il plastronne. Comme l'ont expliqué les intervenants précédents, on observe une augmentation des violences de l'extrême droite partout sur le territoire, professe-t-il. 5 jours après le lynchage mortel de Quentin, alors que 3 collaborateurs directs du même Raphaël Arnaud sont en garde à vue dans le cadre de cette agression mortelle, ces propos de 2023 prennent une résonance particulière. Outre l'augmentation du nombre de violences de l'extrême droite, on observe aussi, disait-il, une augmentation de leur niveau. Et il a une explication médiatique. On a observé que cette évolution était directement liée à la normalisation des discours de l'extrême droite, c'est toujours Raphaël Arnaud qui parle, sur de nombreux plateaux de télévision. Ces théories, comme celle du grand remplacement, ont poussé des terroristes à passer à l'action. Elles sont complotistes et profondément antisémites. Voilà ce qu'explique Raphaël Arnaud sous texte « Il faut fermer CNews, Boulevard Voltaire ou Radio Courtoisie ». La jeune garde connaît mieux que quiconque la lutte contre le terrorisme, notamment celui des extrêmes droites, expliquait encore Raphaël Arnaud. Ce rempart moral se dressait ainsi en garantie contre le risque des atrocités, je cite, et des violences, je cite encore, d'extrême droite qui menacent l'Hexagone. Il faut très rapidement instaurer des outils pour se protéger de toutes les violences commises par l'extrême droite qui peuvent aller jusqu'à se traduire par des attentats terroristes. Vous voyez, c'est une obsession. On n'en sort pas. Pour la jeune garde, la brutalité de la jeune garde, Yves-Marie Sevilla l'a vue pourtant. Elle a entendu dans son enquête choc sur les dessous de l'élection de Raphaël Arnaud, que vous pouvez lire sur Boulevard Voltaire, c'était en Avignon lors des dernières législatives. Il faut la lire pour comprendre les méthodes de ce cogneur qui jouait ainsi le 3 avril 2023 la sinistre comédie des loups déguisés en agneaux dans l'enceinte même de l'Assemblée nationale, cette Assemblée nationale où il entrera comme député d'Avignon un an plus tard, en juillet 2024. Voilà, est-ce que vous aviez repéré ce petit épisode, les uns ou les autres, la présence de Raphaël Arnaud dans une à l'Assemblée, hein, qui était interrogé par la présidente de l'Assemblée, qui était à l'époque Hélène Laporte, qui était donc une députée Rassemblement National et vice-présidente de l'Assemblée. Et donc, il donnait comme ça sa bénédiction sur... la manière dont il fallait prendre les violences de l'extrême droite.
Hein. Il a fait même pire, puisqu'il y a un documentaire sur la montée de l'extrême droite en Europe qui a été produit par la chaîne parlementaire ERT. Et les experts sur cette montée, c'est justement la jeune garde, plusieurs membres de la jeune garde qui sont présentés comme simplement des experts de la montée de l'extrême droite. Et donc, ils ont eu le droit à 1h30 de documentaire pour critiquer la montée de l'extrême droite en Europe. Fait par des gens qui, effectivement, imitent plus leur méthode qu'ils la combattent.
Ah, voilà, on vient d'entendre Olivier Vial, qui est déjà parmi nous et qui est le directeur du Centre d'études et de recherche universitaire, qui est un laboratoire d'idées universitaires, responsable du programme sur les nouvelles radicalités. On va détailler tout ça avec vous tout à l'heure. Olivier Vial, merci de nous avoir rejoints. Franck Herriot.
Oui.
Oui. Non, ça, non, ça non, vous laisse non, de non, marbre, cette histoire.
Même remarque que...
Que monsieur. Olivier Vial, oui.
Mais effectivement, on mélange toujours un peu dans ces histoires l'explication et la vision du véritable historien, enfin du chercheur, et ceux des gens qui sont partie prenante. Et souvent, on les prend pour argent comptant, et c'est bien dommage. Et c'est souvent sur le service public, effectivement.
Alors là, en l'occurrence, c'était une commission, une
assemblée. Vous parlez du reportage de...
Oui, oui, le reportage.
Documentaire.
C'était extraordinaire, donc sur fond public.
Mais on a vu ces jours-ci, d'ailleurs, sur France Inter notamment, des commentateurs présentés comme tels sur l'affaire Quentin, et qui étaient en réalité déjà des militants ou des intellectuels d'extrême-gauche connus comme tels. Mais bon, on essaye de présenter sous un jour neutre des gens qui sont arrêtés, des militants convaincus.
Ouais, et on reviendra sur le traitement médiatique de cette affaire tout de suite, lorsqu'on en parlera, et traitement qui est assez impressionnant, notamment de la part des services publics. Je trouve ça, France Info, etc., c'est incroyable. Damien Chalamel ?
Non, moi ça m'avait échappé, mais la présence de Raphaël Arnaud, c'est qui est une petite frappe, hein. À ma génération, ça s'appelait le scalp. C'était les mêmes...
C'était les modérés, les scalps.
Section carrément.
Je vous assure qu'ils n'étaient pas modérés.
Ils n'étaient pas toujours, alors.
On était dans la même imposture idéologique. Hein. C'était les mêmes, la même béquille du système. On avait la même complaisance des médias, des milieux universitaires, la même fausse équivalence entre les pseudo-violences, la fausse équivalence entre les extrêmes. Voilà, donc énormément de complaisance des médias dominants et une faiblesse de la droite sur la violence réelle des antifas. Alors, avec les années, ben, vous voyez, c'est plus le scalp, sont les antifas de M. Arnaud et de sa petite bande.
Garde.
Ça n'a fait apparemment que s'empirer, si on en croit les...
Alors c'est incroyable le jésuitisme, je vous donne la parole tout de suite, le jésuitisme du gars qui disait... il était plein de compassion en fait pour ceux qui découvriront l'horreur, hein. Au moment où on mène cette lutte, on sait qu'on est en danger. C'est encore pire lorsque les personnes visées, notamment des élus de la République, ne sont pas préparées à toute cette violence. Il parle évidemment de la violence d'extrême droite. Gérard Gachet.
Oui, je rejoins un peu ce que je crois voulait dire Olivier Vial quand il disait que les choses s'étaient aggravées, parce que il a connu. À l'université, j'avais déjà connu avant lui, c'est le privilège de l'âge, les luttes, les combats parfois violents contre l'extrême gauche, mais il me semble qu'on a franchi quand même un cap avec cette équipe de la Jeune Garde. On savait, alors on y arrivait plus ou moins bien, mais on savait en général s'arrêter à un moment. Et y compris même l'extrême gauche savait. Moi, j'en ai été victime. J'ai eu traumatisme crânien et jambes cassées il y a longtemps par.
Vous, Gérard Gachet. Alors, c'est le scoop.
1976, vous voyez, ça soirée. Pas d'aujourd'hui. Ouais. Mais pourtant, je reconnais qu'en général, on savait ne pas aller trop loin. Et que, voilà. Aujourd'hui, on a l'impression, quand on voit même les images, ils sont devenus fous. Quand un type est à terre et qu'on lui saute dessus à pieds joints, qu'on le frappe, qu'on continue à le frapper alors qu'il est déjà manifestement KO, ça prend des tournures absolument insupportables. Et on en reparlera certainement, mais je pense que les gens qui ont réussi à légitimer et à faire élire des voyous capables de ces actes-là portent une très très lourde responsabilité.
Bien sûr. Allez, on va y venir. Justement, nous parlerons tout à l'heure de notre clin d'œil culture. Je vous parlerai, tiens-moi, du totalitarisme sans le goulag. Alors, le livre n'est pas tout récent, il date de 2023, je crois. Mais bon, je ne l'ai lu que récemment, hein, on n'est pas très rapide. Et un livre marquant de Mathieu Bottecôté aux Presses de la Cité, mais on a tous préparé quelque chose. Allez, spécial, l'extrême gauche tue, qui la protège, avec notre grand invité Olivier Vial, directeur du Centre d'études et de recherches universitaires du laboratoire qui est un laboratoire d'idées universitaire. Il est le responsable dans ce laboratoire d'idées du programme sur les nouvelles radicalités, c'est bien ça.
C'est ça. Hein.
Et puis nous analyserons donc les conséquences politiques avec le politologue Arnaud Benedetti, et puis nous parlerons de l'enquête en cours avec l'ancien patron de la PJ, Christian Flèche, qui nous rejoindra un petit peu avant 19h à ce grand dossier, c'est tout de suite.
Restons courtois avec Marc Baudrier et Boulevard Voltaire.
Depuis le décès tragique du jeune Quentin, l'extrême gauche est en accusation en France. 6 personnes ont été mises en examen pour homicide volontaire, violence aggravée et association de malfaiteurs. Jacqueline Favreau, l'assistant parlementaire du député insoumis Raphaël Arnaud, a été mis en examen pour complicité d'homicide volontaire, violence aggravée et association de malfaiteurs. L'extrême gauche a donc du sang sur les mains après un épouvantable lynchage sauvage, mais elle ne lâche rien, pas d'excuses, pas de démission de Raphaël Arnaud à l'heure où nous nous parlons, pas de recul de LFI, bien au contraire, pas de mea culpa, rien de tout cela. Au contraire, Mélenchon persiste et signe. On l'écoute, c'était ce 15 février en meeting de campagne de la candidate insoumise pour les municipales à Montpellier. C'était
juste après la mort de Quentin, Mélenchon prêche contre la violence.
J'ai dit des dizaines de fois que nous étions hostiles et opposés à la violence. J'ai dit autant de fois que la non-violence était un choix fondamental, philosophique, pour une raison. C'est que la violence rabougrit nos mouvements. C'est-à-dire que quand la violence est là, alors la peur contamine, gagne. Et on a d'une part des actes motivés par la peur, et de l'autre côté, des méfiances, des mises à distance de tous ceux que tout ça intimide et qui n'ont aucune idée de participer à de tels actes. La violence, enfin, a fait la preuve partout où elle a été appliquée de son inutilité. Mesdames, messieurs, mes camarades sont morts au Chili, sous la torture, sous les coups. Et le tyran est mort dans son lit. Alors, tous les sacrifices qui ont été consentis par les camarades, leur mort, leur martyre, tout cela en vain ? Non, puisque nous continuons la lutte. Mais c'est clair que ce n'est pas la bonne tactique pour nous que celle-là. La bonne tactique, c'est celle qui sans cesse ramène plus de monde au combat, qui l'amène à l'action, consciente, éduquée, volontaire, et non pas subie à la faveur d'emportements.
Voilà la défense de Mélenchon. Donc on part au Chili, hein, mais en attendant, en France, c'est en France qu'il y a eu un mort dans des conditions absolument sordides, absolument épouvantables. Olivier Vial, je commence par vous. Est-ce que ça vous surprend ce discours de Mélenchon, ou est-ce que vraiment on reste dans la doxa ? Il y a en tout cas quelque chose de très saisissant, c'est qu'il ne lâche rien.
Non, ben, c'est la grande stratégie de Jean-Luc Mélenchon. D'ailleurs, on voit que il est celui qui assume tout. Quelques-uns de ses cadres sont sur la même ligne que lui, mais on sent quand même que dans les parlementaires LFI, il y a quand même des gens qui sont extrêmement malaises. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est qu'après ce meeting-là, il a refait une prise de parole. Il l'a fait au Parti ouvrier indépendant. Le POI, c'est un des mouvement aussi qu'il a fait intégrer au sein de LFI. Le POI, c'est l'héritier de l'OCI, donc des Lambertistes. C'est toujours un lieu où Jean-Luc Mélenchon fait quelques réunions, et il fait ces réunions-là quand il y a un peu de friction au sein de LFI. Parce que le POI, au sein de LFI, c'est considéré comme les commissaires politiques, c'est ceux qui sont les plus durs sur la ligne, c'est ceux qui sont le bras armé de Jean-Luc Mélenchon, et c'est déjà arrivé plusieurs fois dans l'histoire de LFI, à chaque fois qu'il y a un peu de tension, qu'il y a certaines personnes qui remettent en cause la ligne du chef, il va au POI, il donne les consignes, et les gens du POI sont en capacité d'aller dans les sections, remettre de l'ordre. Ça a été le cas quand Adrien Quatennens a été mis en accusation suite à des violences conjugales, et qu'une grande partie des parlementaires LFI voulaient l'exclure alors que lui ne voulait pas. Il est allé voir les gens du POI qui sont allés remettre de l'ordre dans les sections pour qu'on ne conteste pas la ligne du chef. Ça a été le cas aussi de tous ceux qui ont dû quitter, en tout cas qui se sont fait exclure de LFI, qui racontent effectivement qu'ils ont souvent eu des pressions de ces trotskistes, qui sont aujourd'hui à peu près 8000 personnes dans le mouvement LFI, donc c'est pas neutre, et c'est ceux qui aujourd'hui tiennent le mouvement. Et qu'ils soient allés donner les consignes au POI d'abord, c'est bien la preuve qu'il avait besoin de resserrer les rangs, et qu'il est dans une stratégie d'assumer totalement. Et ce qu'on a entendu là sur la non-acceptation de la violence, c'est une tartufferie, parce qu'en fait, Jean-Luc Mélenchon, dans l'histoire politique récente, ça va être celui, on va retenir, que c'est lui qui a fait entrer l'ultra-gauche violente. En gros, pour vos auditeurs, on classe l'ultra-gauche justement à partir de la violence. Ce qui fait la différence entre l'extrême-gauche et l'ultra-gauche, c'est le fait de recourir systématiquement à la violence et au combat délictuel. Donc, il a fait entrer l'ultra-gauche à l'Assemblée nationale, et ça, clairement, c'est quelque chose qui est inédit sur plusieurs dizaines de décennies. Hein. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas connu ça, et il le fait en conscience. Il a fait rentrer à la fois, donc Raphaël Arnaud, vous en avez déjà parlé, mais il a fait aussi rentrer Monsieur Le Gavre, qui est justement un député qui vient du POI, et il a fait rentrer aussi un député du NPA. En fait, tous ces mouvements-là, jusqu'à présent, n'avaient jamais...
Il a satellisé un peu, il se conçoit comme un vaisseau amiral des satellites radicaux.
C'est
quoi,
ça, mais en fait, il a créé LFI pour cela. En fait, il faut bien aussi avoir en tête quelque chose que beaucoup d'auditeurs ne connaissent peut-être pas. LFI n'est pas un parti politique. et les filles n'a pas de statut. Ouais. Et les filles n'a pas un, comme dans tous les partis.
Il n'a pas d'adhérent, hein, en
y a
fait.
Il n'y a pas d'adhérent. Il ouais. n'y a pas de responsable. Il n'y a que Jean-Luc Mélenchon et deux autres personnes. Et tout le reste, en fait, c'est quelque chose de totalement gazeux, comme il le dit. Ce qui lui permet, en s'appuyant sur ces mouvements-là, de tenir la ligne et d'obliger les parlementaires qui sont derrière lui à obéir. Et même dans les parlementaires, on avait fait, avant la dissolution, on avait fait le compte, il y a un tiers à peu près des parlementaires qui avaient été élus, qui ne sont pas du tout des gens qui avaient une culture politique, mais une culture activiste. Il allait les recruter dans différents mouvements activistes, Attac, les Amis de la Terre, tous des gens qui ont une culture de la contestation, une culture de l'affrontement, et ça explique beaucoup ce qui s'est passé à l'Assemblée, la bordélisation de l'Assemblée. Et en fait, c'était simplement de créer un outil. LFI, c'est l'outil que Jean-Luc Mélenchon a créé dans sa stratégie qu'il avait définie auparavant, qui est la stratégie de la conflictualisation. Il ne veut pas gagner le pouvoir, comme il le dit, de façon classique, mais il a créé un parti qui n'en est pas un, avec des groupes d'ultra-gauche qui, jusqu'à présent, n'étaient jamais rentrés à l'Assemblée, qui, cette fois-ci, sont rentrés à l'Assemblée, avec des alliés dans tous les mouvements activistes les plus radicaux, et il les a fait rentrer à l'Assemblée. Ouais. Et ça, effectivement, ça change totalement le dispositif. Et juste pour finir sur
mais,
la jeune garde,
mais il le paye, là, quand même.
Je pense pas. Je là-dessus, effectivement, aujourd'hui, on sent que ça tangue un petit peu. Mais si vous regardez ce qui se passe depuis quelques jours, il y a eu une première phase où effectivement l'annonce de la mort de Quentin a créé effectivement un électrochoc et a ému l'opinion. Mais là, depuis 48 heures, le fait d'avoir totalement assumé, d'avoir remobilisé sa base, si vous regardez ce qui se passe sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, la menace, c'est le grand meeting néo-fasciste qui se tiendra demain à Lyon.
Ouais,
en fait, ils ont réussi à inverser petit à petit, grâce justement à cette galaxie de mouvements activistes. Par exemple, là, depuis 14 heures, tous les mouvements écologistes qui, normalement, n'ont rien à voir avec ça, se déclarent en faveur d'une écologie antifasciste, on ne sait pas vraiment ce que ça peut vouloir dire, et se mobilisent contre la manifestation en hommage à Quentin. Et donc ça, on le voit, effectivement, il arrive, grâce à ça, à tenir un narratif. Alors, ça lui permet, dans un premier temps, de garder la cohésion de son électorat, de ne pas, en fait, ce qu'il a voulu faire, c'est surtout ne pas se désolidariser de la jeune garde, parce qu'en réalité, il sait qu'il a besoin de ces durs pour tenir, et que dans les mois qui viennent, il en aura besoin. Parce que,
mais justement, est-ce que, on va peut-être faire un petit tour de table là, mais est-ce que vous pensez que Raphaël Arnaud sera obligé quand même, mais c'est extraordinaire que ça ne soit pas fait déjà, de démissionner de son poste de député de l'Assemblée nationale?
Il l'aurait déjà fait si...
Franck Ariot.
Il l'aurait déjà fait si...
Vous pensez qu'il si restera?
Bah, je ne sais pas, moi, a priori, oui. Enfin, je ne vois pas pourquoi il n'a pas démissionné déjà et pourquoi il démissionnerait.
En tout cas,
il faudrait des éléments...
Personne ne peut l'obliger. Le seul qui pourrait effectivement faire pression sur lui, c'est Jean-Luc Mélenchon, qui pour l'instant assume totalement. La seule chose qui risque de changer, c'est que puisque les chefs d'accusation, il y a notamment association de malfaiteurs, il est très probable qu'à un moment donné, Raphaël Arnaud soit entendu, puisque trois de ses collaborateurs, dans des conditions qu'on ne sait pas encore, qui a payé les billets, est-ce qu'ils avaient l'autorisation d'aller à Lyon, alors que c'est ni leur circonscription, ni l'endroit où ils doivent travailler habituellement. Donc toutes ces questions c'est sûr que les enquêteurs vont vouloir les poser à Raphaël Arnaud. S'il les pose, notamment parce que c'est quand même très probable dans le cadre d'une garde à vue, ça va effectivement rajouter quand même un peu de pression. Et effectivement, s'il y a une garde à vue de Raphaël Arnaud, ça sera quelque chose qui compliquera les choses.
Il faut que le bureau de l'Assemblée l'autorise.
Non, parce qu'en fait, justement, l'immunité parlementaire, on a vérifié ça, ne concernera pas ce genre de choses parce qu'on est dans du crime qui n'a rien à voir avec le mandat de son,
d'accord,
son mandat.
Ouais, du crime de sang, j'ai rien caché.
L'emploi de ses assistants parlementaires sera mis en cause. Mais je pense que même si ce n'est pas directement lié, je suis étonné que Mme Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, n'envisage pas déjà au moins la levée de l'immunité parlementaire de Raphaël Arnaud, symboliquement. Et n'envisage pas, en tout cas, que les assistants mis en cause... alors, il y en a un, je crois, à qui on a retiré ses badges d'accréditation à l'Assemblée.
Deux, je crois.
Mais voilà, qu'ils ne soient pas déjà suspendus de leur fonction totalement. C'est quand même hallucinant. Imaginons que ce soit quelqu'un, un député du Rassemblement National, qui soit compromis dans ce genre d'affaires. J'imagine que déjà des sanctions auraient été prises assez rapidement.
Bah, ça paraît extraordinaire, en tout cas, que deux des plus proches collaborateurs d'un député soient partis à Lyon, où ils n'avaient rien à faire, comme vous venez de le dire, puisqu'ils sont élus du Vaucluse, si j'ai bonne mémoire.
Lui est élu du Vaucluse.
Lui est élu du Vaucluse, pardon.
Effectivement, et eux, normalement, étaient censés travailler à Paris, a priori. Donc,
c'est ça. En pleine semaine, voilà. Damien Chalamel.
Non, mais moi, je veux rejoindre développer les propos de notre invité. C'est qu'il y a deux niveaux d'interprétation. Enfin, le niveau judiciaire dont on va parler, et puis le niveau politique. Vous posiez la question de savoir est-ce que ça change. Et notre invité disait très justement non. Malheureusement, ça ne change rien. Et alors, il y a Monsieur Olivier Faure effectivement qui évoque cet hommage qui qualifie maintenant de rassemblement de fascistes. Et je vois encore Monsieur Gage. Le brave Monsieur Gage, mais pas au sens de courageux, qui, il y a encore peu de temps, qualifiait Jean-Luc Mélenchon de pire antisémite qu'il ait jamais connu, dont il était en réalité le bras droit dans l'Essonne, historiquement.
Et qui maintenant,
bien évidemment, confirme que, entre le Rassemblement National et la France Insoumise, il voterait dès demain Jean-Luc Mélenchon. Donc en réalité, cette béquille... De la gauche que sont LFI et à l'extrémité les nervis de cette garde
la jeune garde.
Malheureusement rien n'a changé
en l'occurrence c'est le moins.
Est-ce que ça risque pas de changer la perception de l'opinion?
L'opinion est en train d'évoluer, mais combien de temps ça va durer? Parce que justement, ça va dépendre beaucoup de cette bataille des récits. Aujourd'hui, effectivement, l'opinion est réellement émue par la mort de Quentin. Ça va d'ailleurs bien au-delà des camps politiques. On a un sondage qui est sorti qui montre que, y compris l'électorat socialiste aujourd'hui, serait prêt à faire un front républicain contre LFI, ce qui n'est pas le cas des cadres, mais l'électorat en tout cas est en train d'évoluer, ce qui prouve d'ailleurs que les cadres socialistes sont quand même dans une logique de manque de courage et beaucoup moins lucides que leur électorat. Mais la question c'est combien de temps ça dure, parce que dès lors qu'ils sont en train de reprendre la main sur le récit et que demain ils sont en capacité de remettre en scène. Vous savez, l'impression qu'on a depuis quelques temps, c'est, vous vous rappelez sans doute de cette formule de Lionel Jospin du petit théâtre antifasciste qui avait lieu en 2002. Là, cette fois-ci, on a l'impression que c'est le petit théâtre antifasciste, mais scénarisé par Netflix. C'est-à-dire qu'en fait, tout est beaucoup plus grand, tout est beaucoup plus hollywoodien. En fait, la menace fasciste, elle devient... Là, on a une horde de néo-nazis qui vont débarquer à Lyon.
Ils sont en train de tout nazifier.
Et sauf que ça fonctionne.
Oui, absolument. Olivier Faure disait tout à l'heure, je ne veux pas non plus qu'on laisse penser que désormais les antifascistes seraient devenus les nouveaux fascistes. Voilà, le premier secrétaire du PS. Tout est dit. Voilà, donc il renverse les choses.
Ce qui est extraordinaire, c'est que ceux qui se sont fait élire avec le soutien du nouveau Front Populaire, donc de LFI, donc de la Jeune Garde, ceux-là, ils continuent à avoir tous les culots. On parlait des écologistes. Monsieur Grégory Doucet, maire écologiste de Lyon, il ose lui demander l'interdiction du rassemblement de demain en mémoire à Quentin. Qu'il demande que des précautions policières soient prises, que ça ne puisse pas dégénérer. D'ailleurs, ce qu'a annoncé le ministre de l'Intérieur va dans ce sens. Mais c'est quand même extraordinaire d'aller oser demander un moment de recueillement et de mémoire à la mémoire de quelqu'un qui a été assassiné par ses amis, eh bien, il ose froidement demander l'interdiction de ce rassemblement.
Mais parce qu'ils en font, de fait, c'est ce que vous disiez, ils sont en train de repeindre cette manifestation à la mémoire d'un étudiant qui a été lynché, c'est incroyable. Eh bien, ils sont en train d'en faire une espèce de manifestation néo-nazie, ce qui est quand même, de le repeindre sous ses couleurs.
Le cas de Lyon est assez particulier, parce qu'en fait, la mairie de Lyon, la municipalité de Lyon, est allée assez loin dans le partenariat qu'ils avaient engagé avec la Jeune Garde. En février 2022, Mohamed Chihi, qui est l'adjoint à la sécurité du maire de Lyon, avait créé un groupe de travail pour lutter contre l'extrême droite, notamment dans le quartier de la Croix-Rousse. Et dans ce groupe de de travail, il avait notamment mis des gens de la Jeune Garde, donc il y avait des gens d'autres associations, des préfets, etc. Ils avaient vocation justement à travailler sur la manière de mieux contrôler l'extrême droite, et notamment, c'est surréaliste, hein, ce groupe de travail avait la capacité de cadrer tout ce qui était vidéosurveillance de l'extrême droite. Quand on sait que ce qui fait aujourd'hui la différence, quand vous parliez de l'époque où effectivement on a connu les affrontements entre militants, ce qui fait la vraie différence aujourd'hui entre l'antifascisme d'hier et celui d'aujourd'hui, c'est cette passion qu'ils ont pour le renseignement. En fait, les antifas, et ça c'est Marc Bray qui est l'un des grands penseurs de l'antifascisme, qui a écrit que la première mission actuelle de l'antifascisme, c'est le renseignement pour savoir qui sont vos adversaires, où ils se trouvent, où ils se retrouvent, où ils habitent, où ils travaillent. Parce qu'en fait, l'objectif pour eux, après, c'est justement cette stratégie d'aller les harceler, pas pendant qu'ils militent. En fait, pendant très longtemps, ce qu'on appelait des rixes militantes, il y en avait, c'était effectivement des militants qui se rencontraient sur le terrain et ça créait des étincelles. Là, ce n'est plus le cas. Dans la majorité des cas, en fait, les gens sont agressés, pas pendant qu'ils militent, mais après, quand ils rentrent tranquillement chez eux, quand ils sortent de leur travail, etc. Ça veut dire qu'on a des gens qui vont les agresser en surnombre de façon extrêmement différente. Parce que l'objectif pour eux, c'est pas d'empêcher une action politique, c'est d'empêcher les gens de pouvoir défendre leurs idées et donc de les harceler. En fait, c'est ce que Marc Bray toujours appelle la théorie du coût social. Il est très lucide là-dessus, il déclare « Il est impossible de faire changer d'avis à un adversaire. Par contre, il est possible de rendre l'expression de ses idées trop coûteuse socialement, économiquement, familialement et même physiquement. » Et donc, l'objectif, c'est ça, c'est de mettre une pression, d'essayer... La pression, elle peut être sociale, donc on va appeler son employeur, on va appeler ses amis pour lui dire « Attention, c'est un gros fasciste, vous savez où il travaille. » Ce qui fonctionne, hein, parce qu'on a des gens qui, par ces techniques de doxing, se retrouvent dans des situations assez compliquées, mais ils vont aller jusqu'à le harcèlement physique, en mettant d'abord des menaces chez eux. On a le cas d'une étudiante de l'UNI à Nantes. Son nom, avec des menaces de mort, ont été tagués sur toutes les murs de sa faculté. Ça, c'était une première chose. Mais elle avait un petit job étudiant. Le commerce dans lequel elle bossait, pareil, les murs ont été tagués jusqu'à ce que, finalement, elle décide d'arrêter de bosser. Parce que effectivement, l'idée, c'est vraiment d'aller leur mettre la pression. Et donc, on n'est pas dans une autre style de violence. On n'est plus dans la violence spontanée.
On pense aux méthodes DSA.
On est dans une violence qui est préméditée, organisée. Et là-dessus, effectivement, alors la Jeune Garde n'est pas la seule à pratiquer ce genre de méthode, mais c'est ceux qui l'ont structuré le plus, puisque à la différence, on y reviendra peut-être si vous voulez, mais la Jeune Garde est un mouvement antifasciste assez particulier, beaucoup plus structuré que les autres, beaucoup plus organisé et surtout avec une hiérarchie, ce que n'ont pas les autres.
Cette méthode de pression psychologique sur l'environnement, ça me rappelle un petit peu les méthodes, sauf qu'il n'y a pas la violence, mais il y a une forme de violence morale dedans, des sleeping giants, oui, en matière
j'y pensais,
qui font pression
absolument
sur les annonceurs publicitaires qui annoncent dans des chaînes ou des radios ou des réseaux ou des journaux réputés être de droite. Et on appelle les annonceurs, vous savez que vous voici vos annonces chez des néo-nazis, chez des fascistes, etc. Et le gars qui ne sait pas forcément très bien dans l'entreprise en question qui veut quoi, il est terrorisé et parfois il recule. Donc ça rappelle un peu, sauf qu'il n'y a pas la violence physique,
mais ça rappelle un peu la méthode. C'est la technique doxing qui est très utilisée.
Voilà, on se retrouve tout de suite avec Olivier Vial, directeur du Centre d'études et de recherche universitaire. Il est responsable du programme sur les nouvelles radicalités et on parle bien sûr du drame du jeune Quentin.
Reste en courtois avec Marc Baudrier et Boulevard Voltaire.
Voilà, et je voulais qu'on insiste un petit peu sur la Jeune Garde. Vous la connaissez bien, Olivier Vial, vous en parliez à l'instant. Vous avez dit quelle différence elle avait par rapport aux autres mouvements de gauche, hein, qu'on a vu, parce qu'on a toujours vu des affrontements, c'est vrai, entre étudiants de droite, de gauche. Les anciens des années 70 se souviennent du GUD, et c'était parfois un peu musclé. Dans les années 80, j'en étais témoin aussi. Voilà, et ça a toujours été le cas, mais jamais jamais on a eu des cas pareils, jamais on a eu des gens qui vous poursuivent, comme on a eu le témoignage de la députée du Rassemblement National qui a affronté Raphaël Arnaud à Avignon et qui dit qu'elle a eu peur, quoi, physiquement peur, qu'elle a été poursuivie jusque chez elle, etc., avec ses militants. Est-ce qu'ils sont structurés, organisés? Est-ce qu'il y a des centres d'entraînement au combat? On l'a dit. Quelle est l'activité? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette façade de la Jeune Garde?
Ce qui est normalement la galaxie, les antifas, c'est un mouvement qui a un peu plus de 100 ans. Et il y a eu plusieurs mutations dans le mouvement, mais ça a toujours été des mouvements, notamment à partir des années 70, ils se sont renouvelés beaucoup dans une culture, d'abord une culture underground, avec ils étaient proches de certains scène punk, etc. Et donc, c'était des groupuscules avec des cultures locales très fortes. Ensuite, après, il y a eu une phase à partir des années 90 où on les a retrouvés un petit peu autour des clubs de foot. Et donc, il y a eu vraiment une idéologie et une esthétique qui a tourné autour de ça. Et puis, petit à petit, effectivement, est née une galaxie de mouvements d'antifa. Ce qui caractérisait les mouvements antifa à l'époque, c'est d'être autonome, avec des cultures locales très fortes et avec des affrontements réguliers entre eux. Parce qu'en fait, ils étaient quand même avec une volonté effectivement extrêmement autonome. Raphaël Arnaud, en 2018, quand il crée la Jeune Garde, il a tout de suite l'idée de vouloir créer une marque nationale. Il va donc créer effectivement la Jeune Garde à Lyon.
Donc de fédérer les antifas qui sont répartis un petit peu partout.
Il va créer des mouvements. Il va pas, parce que les autres vont rester et vont d'ailleurs être souvent assez critiques. Quand aujourd'hui effectivement on parle beaucoup de la Jeune Garde parce que il y a eu ce drame, mais c'est pas les plus radicaux. Les autres mouvements antifas considèrent que la Jeune Garde c'est le PS radicalisé. C'est pour vous dire comment ils les comportent parce que et il est juste très carriériste. Et effectivement, en fait, ce que va amener à Raphaël Arnaud, c'est un de se dire on montre une marque nationale, on crée des structures différentes, on structure et on hiérarchise, ce qui était exactement l'opposé de la culture très anarchiste et autonome des mouvements antifa. Et donc il le fait ça pour lui, hein, parce qu'en fait il est le premier porte-parole, et donc on va créer un porte-parole. Alors un porte-parole, ça a été beaucoup dit qu'en gros c'était aussi, là aussi, une révolution dans le milieu antifa, puisque il y avait, normalement, c'est des gens qui sont très proches de l'anonymat. Là, il y avait un porte-parole. Bon, ce qu'on apprend, c'est qu'ils étaient tous sous pseudo quand même. C'est du porte-parole là, mais sous pseudo. Puisque même Raphaël Arnaud est élu député sous pseudo. Mais donc, on a ça qui se passe avec effectivement l'idée de très hiérarchiser, de structurer, et donc de faire pour ça à la fois une communication extrêmement forte autour de la violence. Il y a une esthétisation de la violence qui est menée.
Qui est complètement assumée.
Totalement assumée. En fait, pendant quelques années, la seule chose qui me mettait en avant, c'était justement leur camp d'entraînement. Et ça, effectivement, ils ont fait des camps d'entraînement nationaux pour rassembler des gens de villes différentes et créer une cohésion autour de ça. Et puis
qu'est-ce qu'on faisait dans ces camps
L'apprentissage au combat. Et voilà, c'est des trucs assez classiques, hein, mais que LFI ne peut pas ne pas avoir connu, puisque Carlos Bilongo, qui est l'un des députés LFI, s'est même pris en photo en train de s'entraîner à la boxe avec les militants de la Jeune Garde. Donc, il y avait cette volonté de montrer cette violence et de l'instrumentaliser. Et où ils vont aller très loin, c'est qu'ils vont même créer des canaux sur Telegram, donc une messagerie cryptée, notamment un Tifa Squad qui a plus de 18 000 abonnés, et où en gros ils vont mettre en ligne leurs agressions. En fait, on n'est plus du tout dans la logique où en fait il y avait des bastons.
C'est-à-dire le moment où eux-mêmes agressent
les gens. C'est plus l'objectif où ce qui se faisait avant, quand il y avait une bataille, c'était surtout de pas se faire prendre. Là, au contraire, ils ont quand même à chaque fois, et on l'a vu d'ailleurs même pour la mort de Quentin. Hein, si vous regardez les vidéos, il y a quelqu'un qui filme. Ils l'ont pas mis en ligne parce qu'il y a eu la mort de Quentin, mais d'habitude ils mettent en ligne. Et sur ce canal-là, alors ce canal d'ailleurs, l'UNI vient de lancer une procédure judiciaire pour demander et la fermeture du canal et avoir les noms des commanditaires de ce canal, parce que c'est une incitation aussi à commettre des crimes. Par exemple, ce qui est arrivé à Quentin, qui est ignoble, chez eux, ils appellent ça « salade de pénalty ». Et en fait, on a plein de vidéos. Salade de pénalty, c'est un hashtag qu'ils ont créé pour dire c'est quelqu'un qui est à terre, on lui met des coups de pied dans la tête. Salade de pénalty. Ils ont inventé plein de choses comme ça qui sont une forme d'esthétisation d'une violence brute. Donc, ils ne font pas seulement adresser
faut vraiment
des gens.
Avoir l'esprit particulièrement vil.
Ils mettent en vidéo et ils diffusent. Et après, ils se moquent même des victimes. Et c'est ça esthétique.
C'est du lynchage.
C'est du lynchage. Mais effectivement, tout ça est mis en place avec par exemple, il y a eu, vous savez, il y a 8 membres de la Jeune Garde qui sont aujourd'hui toujours mis en examen suite à une agression antisémite en marge d'un meeting de Rima Hassan. Déjà, c'est en mai 2024. À l'époque, le Canard Enchaîné révèle qu'effectivement, la Jeune Garde était bien le service d'ordre de Rima Hassan, ce qu'elle aujourd'hui dément. Ouais, ouais. Et suite à ça, ils vont agresser un jeune de 15 ans dans le métro. Ils le tabassent et ils le forcent à crier « Vive la Palestine !» Tout ça est filmé. Et filmé et diffusé sur les pages Facebook et le canal de la Jeune Garde. C'est-à-dire qu'ils agressent quelqu'un, ils commettent un crime antisémite, ils ne s'en cachent pas, ils le filment et ils le diffusent sur leur propre réseau. C'est assumer une violence totale. Et ça, c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand LFI fait semblant...
C'est quand même incroyable.
Quand LFI fait semblant de le découvrir, c'est impossible de le découvrir. C'est en toute impunité, c'était diffusé, ils n'ont jamais caché qu'ils le faisaient, ils en faisaient la publicité.
Je crois que même si on le sait, il faut quand même insister sur un fait différent par rapport à d'autres époques, c'est que tout ça est dirigé par un député.
Ouais.
Donc il y a du pouvoir, il y a des moyens. Avec d'autres députés qui le soutiennent.
Alors,
donc,
il a été dirigeant, porte-parole. La Jeune Garde, c'est lui.
Disons qu'il tirait les ficelles dans l'ombre, mais avec un pouvoir et avec des moyens. Ce qui n'était pas le cas avant.
Oui, alors justement, pour dire, il ne dirige plus. Ouais, il y a un reportage, c'est très amusant, parce que c'est Quotidien qui l'a fait, qui montre que suite à la dissolution, il est dans une université d'été de LFI, il y a un stand de la Jeune Garde qui existe, lui explique, parle de la Jeune Garde comme s'il était toujours mon membre, et il explique même qu'ils ont fait ils ont trouvé une bonne combine, parce que puisque la Jeune Garde est dissoute, on ne peut plus être présent, mais heureusement, on dit que c'est le stand du soutien à la Jeune Garde et ça passe. Et il est très heureux d'avoir trouvé cette combine. Et quand il en parle, on voit très bien que pour lui, il est toujours le leader de la Jeune Garde. Et d'ailleurs, au niveau européen, il a fait un déplacement en Angleterre pour soutenir les antifas anglais. Il a fait un déplacement en Italie pour soutenir à Rome les antifas italiens. Et donc, il est toujours dans cette idée d'être représenté et de profiter de son statut de parlementaire que ce mouvement n'a jamais eu, quoi.
Allez, nous sommes avec Olivier Vial, directeur du CERU, le Centre d'études de recherche universitaire, et qui est responsable du programme sur les nouvelles radicalités, et toujours entouré de Franck Herriot, Gérard Gachet et Damien Chalamel. Nous allons parler, aller sur le terrain, et nous avons en ligne un étudiant qui s'appelle Maximin, et qui est membre d'un syndicat étudiant qui s'appelle la Cocarde, et qui connaît bien le milieu étudiant de Lyon, puisqu'il est membre de la Cocarde de Lyon. Maximin, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour, merci de nous consacrer un moment. Écoutez, j'avais deux questions à vous poser. D'abord, quelle est l'ambiance à Lyon, puisque vous y êtes, vous, et que vous connaissez bien l'ambiance de l'université et le rôle des antifas? Quelle est cette ambiance? Comment on pratique ce syndicat de gauche? Et est-ce que là-bas, quand on est comme vous, un membre de la Cocarde étudiante, donc d'un syndicat de droite, est-ce qu'on se sent en danger?
Alors, la tension à Lyon, elle est surtout palpable depuis la mort de Quentin. Ça se ressent vraiment dans tout ce qui est les facultés, là où les jeunes, là où dans tous les milieux qui sont très politisés, notamment les facultés. Sinon, on est vraiment dans un contexte plus global. On a eu déjà les élections du CROUS il y a 2 semaines, donc les élections étudiantes qui ont mis en lumière quelque chose qui dure depuis des années, à savoir qu'en fait, la gauche dans les facs, avant même de tomber dans l'extrême des antifas, c'est une intimidation continue. Donc c'est tout ce qui est les syndicats étudiants comme l'UNEF ou l'Union étudiante, qui exerce une pression constante. Moi, je peux prendre mon exemple, mais j'en connais plein d'autres. Vous arrivez à la fac, vous avez quelqu'un qui vous traite de facho, qui vous pointe du doigt. Donc, en soi, c'est juste du blabla, mais c'est une pression en continu. Et donc là, avec les élections, dès qu'on intervenait, donc par exemple pour un tractage ou quelque chose comme ça, alors les syndicats eux-mêmes n'interviennent pas, mais immédiatement, il y en a un ou deux qui appellent leurs amis antifa. Donc ce soit la jeune garde ou autre, mais bon, la plupart du temps, c'est la jeune garde. Donc, voilà, c'est quelque chose de continu, avec des étudiants qui sont même suivis. Ça a été mon cas, ça a été le cas d'autres qui affichent un peu leur tête, qui sont suivis jusque devant chez eux, qui reçoivent des menaces, des choses comme ça. Donc c'est vraiment quelque chose de global.
Donc être un membre de la cocarde à Lyon, c'est du courage physique. Damien Chalamel.
Oui, moi j'aimerais notre jeune ami nous explique un peu la position de son établissement d'enseignement. Enfin, de l'extérieur, on a l'impression d'une complaisance, mais incroyable. Alors, en dernier lieu, par exemple, c'était d'inviter Rima Hassan pour un soi-disant débat qui n'en est pas un. J'aimerais que vous pouvez nous parler un peu de la position des...
Alors, les facultés, globalement, et les universités de Lyon sont axées très à gauche. Moi, je pense que c'est pas qu'à Lyon. Alors, moi, j'ai la chance d'être dans la moins à gauche, on va dire. Mais alors, Sciences Po, par exemple, Lyon, qui a invité Rima Hassan, ou il y en a d'autres comme Lyon 2 à Bron, c'est des facultés qui sont ouvertement de gauche. Donc, là, pour eux, c'est un honneur d'accueillir Rima Hassan, on va dire. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est... Puis quand on voit les réactions qu'ont eues... certaines directions après la mort de Quentin. Alors évidemment, ils condamnent la violence, mais bon, jusque-là, ça mange pas de pain. Et après, immédiatement, oh là là, attention, pas de récupération, faites attention, pas d'extrémisme. Il suffirait un peu de regarder qui sont dans vos rangs et qui étaient devant la fac au moment où Rima Hassan était là.
Dans un climat ultra hostile. Olivier Vial.
Oui, non, juste effectivement, pour revenir sur Lyon, Lyon 2.
Vous connaissez bien Sciences Po, les milieux étudiants.
Sciences Po Lyon dépend de Lyon 2. Lyon 2, c'est une université qui est extrêmement marquée et qui est extrêmement complaisante. Deux exemples, c'est dans cette université que le professeur Balanche a été son cours a été interrompu et il n'a pas été soutenu par la direction. Au contraire, on l'a mis rapidement, on l'a accusé de jeter de l'huile sur le feu. C'est dans cette université que le vice-président était obligé de démissionner quand on s'est aperçu que un, il faisait des tweets pro Hezbollah alors qu'il était vice-président de l'université, et que deux, ensuite, en regardant son profil Twitter, qu'il avait tenu plein de propos antisémites, et donc il a été d'ailleurs suspendu. Pour l'instant, il est toujours son traitement lui est toujours versé, mais il a été suspendu parce que justement l'UNI avait dénoncé les tweets antisémites et qu'on avait relevé son soutien au Hezbollah. Donc tout ça, effectivement, est quelque chose qui donne un peu la tonalité de cette université-là. On est dans une université où effectivement on est très très soutenu quand on est d'extrême gauche, parce que ça fait partie presque des matières enseignées. Tout ce qui est décolonialisme. En fait, il y a eu toute une partie des disciplines universitaires qui sont devenues des moyens de légitimer les slogans d'extrême gauche. La violence policière est enseignée à l'université, le racisme systémique est enseigné à l'université. Tout ça, en fait, ça donne de la légitimité à des slogans d'extrême gauche.
Maximin, est-ce que vous pensez que le massacre de Quentin par des militants gauchistes va changer quelque chose, en bien ou en mal, dans cette ambiance terrible que vous décrivez?
Je pense que la sanction que donnera la justice va un peu donner le ton à ça. Parce que, évidemment, ils ont coupé les têtes principales, Jacques-Élie Favreau, même Raphaël Arnaud, qui est un peu sous le feu des critiques, donc qui risque un peu de rabaisser son ton. Mais après, est-ce que dans les faits, ça va changer grand-chose? On verra dans les prochaines semaines, mais je peux vous dire que déjà, il y a eu des tractages en faveur de la manifestation de Quentin, et avec qui ont croisé des antifas qui se baladaient avec des maillots jeunes gardes. Donc de là, ils n'ont pas l'air de se cacher vraiment. Donc moi, j'ai pas le sentiment que ça puisse changer grand chose. Au contraire, ça va un peu envenimer, à mon avis, à certains endroits où, à cause des tensions que ça va créer. Donc voilà, surtout après la mort de Quentin, évidemment, il y a un peu la crainte que, que vous êtes étudiant ouvertement de droite, vous dites ça peut vous arriver à chacun d'entre vous. Donc ça va rajouter.
Maximin, dernière question de Gérard Gachet. Non.
Oui, c'est plus une remarque qu'une question. On a beaucoup parlé de la lâcheté, voire même de la complicité de certains dirigeants d'établissements universitaires par rapport à l'ultra-gauche. Moi, je voudrais rappeler qu'il y en a un qui, à Paris, a été courageux. Il s'appelle Louis Vassy. Il est le directeur de Sciences Po Paris. Il a interdit une conférence de Rima Hassan pour risque de trouble à l'ordre public. La justice lui a d'ailleurs donné raison, puisqu'il avait contesté ensuite cette interdiction. Donc, il y a heureusement quelques exceptions, mais malheureusement de plus en plus minoritaires au sein du milieu enseignant.
Mmh. Absolument. Mmh. Hein. Maximin, merci infiniment de nous avoir accordé ce petit moment. Hein.
Merci beaucoup. Avec grand plaisir.
Et bon courage pour la suite.
Hein. Merci beaucoup.
Voilà, au revoir Maximin. Hein, voilà, on continue cette émission avec Franck Herriot, Gérard Gachet et Damien Chalamel. Nous recevons Olivier Vial, directeur du Centre d'études et de recherche universitaire. Il est le responsable du programme sur les nouvelles radicalités. Olivier Vial, est-ce qu'il y a un développement de ces mouvements d'ultra-gauche? Est-ce qu'il y a une dynamique?
Oui, il y a une dynamique qui est importante. Les antifas
dans les universités et ailleurs. Alors,
dans les universités et ailleurs. Les antifas sont d'ailleurs que la phase émergée d'un iceberg beaucoup plus préoccupant. Dans les universités, effectivement, on a une gauchisation qui est extrêmement forte et là aussi qui est très loin de ce qu'on a connu ces dernières années. L'UNEF, par exemple, qui a longtemps dominé, aujourd'hui est quatrième ou cinquième mouvement. Elle s'est fait déplacer par des mouvements beaucoup plus à gauche qu'elle. L'Union étudiante, dont on vient de parler, et qui est plutôt la branche LFI, a pris le leadership des mouvements étudiants. Et surtout, il y en a un qui apparaît depuis 2 ans, qui est extrêmement important et qui a émergé très rapidement avec des moyens considérables. C'est un mouvement qui s'appelle le Point Levé. Le Point Levé, pour vous donner le degré de radicalité, c'est un mouvement qui est issu d'un mouvement trotskiste, qui est la branche étudiante de Révolution Permanente, qui a quitté le nouveau parti anticapitaliste, le NPA, jugeant que son rapprochement avec Jean-Luc Mélenchon était une droitisation.
Ah ouais.
Ces gens-là prônent la révolution, prônent l'action violente. On fait venir, c'est eux qu'on fait venir Jean-Marc Rouillant à Bordeaux, donc le terroriste d'Action Directe. Les étudiants qui ont participé à cette conférence disaient à la sortie qu'ils étaient heureux d'avoir vu quelqu'un qui était allé au bout de ses convictions, c'est-à-dire qui avait tué pour ses convictions. Donc on est quand même dans un degré de radicalité très important. Eh bien, ce mouvement-là arrive à faire plus de 50% des voix à Paris 8, il fait 30% des voix à Bordeaux, il fait 30% des voix à Aix-Marseille, qui était pourtant une université plutôt tranquille. Et donc on voit effectivement que ce discours de radicalité est en train réellement de progresser. Ne serait-ce parce qu'ils ont totalement réussi à imposer justement leur narratif sur Gaza. Et c'est aujourd'hui, par exemple, il y a une étude qui est sortie la semaine dernière sur l'université d'Aix-Marseille, où on s'aperçoit que, quel que soit justement les milieux d'origine, quelle que soit l'origine des étudiants, le principal combat pour eux, c'est Gaza, à 57%. Donc on est sur, quels que soient les étudiants, la question de Gaza s'est imposée. Donc tous ceux qui sont dans cette logique-là, ça explique aussi l'accueil triomphal Karima Hassan. Vous vous rappelez aussi de cette conférence qu'on avait vue à Paris 8, où il y a un amphithéâtre bondé qui, quand on lui pose la question, est-ce que vous êtes pour le 7 octobre, est-ce que vous referiez le 7 octobre, l'amphithéâtre entier se met à applaudir et dit qu'il ne condamne pas le 7 octobre, au contraire. Tout ça, c'est parce que cette évolution-là existe. Et après, il y a d'autres mouvements d'ultra-gauche. Il ne faut pas croire que l'ultra-gauche est que dans les universités. Et là, c'est là qu'elle est en train de se développer de façon très massive. Justement, nous, on étudie aussi toutes les nouvelles radicalités, la montée des sabotages, la montée des actions terroristes, etc. Et là, on a une vraie augmentation depuis 2015. En gros, il y a toute une partie des jeunes qui s'étaient lancés notamment dans ce qu'on a appelé la génération climat, qui ont considéré très vite que manifester, militer dans des partis traditionnels, ce n'était plus efficace et qu'il fallait passer à l'action d'abord. Ça a été d'abord des gens qui ont commencé par la désobéissance civile, qui a été extrêmement soutenue par des intellectuels et par des collectivités. Puis ils sont passés à l'action directe avec des micro-sabotages d'abord et puis de plus en plus de sabotages. Et il y a une vraie montée en tension. Il y a 3 ans, Léna Lazare, la porte-parole des Soulèvements de la Terre, expliquait sur France Inter qu'à la question « Est-ce que vous allez poser des bombes ?» Elle disait que pour l'instant, ce n'est pas l'ordre du jour, mais ça sera une position que, immanquablement, les écologistes devront se poser. Une question que... Et là, cette semaine, vous l'avez sans doute vu, ça a été un peu occulté par la mort de Quentin, mais le lendemain de la mort de Quentin, à Bure, sur le centre d'enfouissement des déchets radioactifs, pour la première fois depuis plus de 40 ans, il y a une bombe qui a été placée par des militants d'ultra-gauche au domicile d'un ingénieur Heureusement, elle a été éliminée, mais c'est la première fois qu'on attaquait des personnes, et ça, c'est une gradation de l'ultra-gauche qui est aujourd'hui prête à attaquer au-delà des réseaux, au-delà des infrastructures, des personnalités.
C'est incroyable. Alors, la mort de Quentin est une déflagration médiatique. Est-ce qu'elle va déclencher aussi une déflagration politique ? Avec nous ce soir, Arnaud Benedetti, vous êtes professeur associé à l'Université de Paris-Sorbonne. On vous connaît, vous êtes déjà venu, vous êtes éditorialiste, fondateur du comité de soutien à Bollem-Sanssal et directeur de la nouvelle revue Politique. Arnaud Benedetti, question simple, hein. Est-ce que donc la mort de Quentin et l'incroyable retentissement de cette mort et cette bagarre qui commence, est-ce qu'elle peut changer la donne politique ? Est-ce qu'elle l'a déjà un peu changée ?
Bah, si vous voulez, elle contribue à déplacer le curseur de la diabolisation sur la gauche, et notamment sur la relation entre la gauche réformiste, les sociodémocrates, les PS pour l'essentiel, et LFI. On voit bien que le débat s'est installé déjà depuis quelque temps, mais il est évidemment aujourd'hui encore plus réactivé de manière beaucoup plus soutenue et beaucoup plus dense depuis ce drame que constitue le lynchage de Quentin. C'est, je crois, le principal sujet. Alors on pourra mesurer l'impact vraiment au moment déjà des élections municipales. On verra bien quelle sera la stratégie du PS, qui pour l'instant semble assez dispersée, parce qu'on a d'un côté un ancien président de la République, François Hollande, qui ne dit plus jamais LFI. De l'autre côté, un numéro 2 du PS, M. Jouvet, qui dit qu'il y aura peut-être, à de très rares exceptions, mais des alliances avec LFI dans l'entre-deux-tours des élections municipales, ce qui montre quand même qu'on souhaite maintenir un fil aussi ténu soit-il quand même avec LFI. Et on a par exemple la déclaration tout à fait surprenante de M. Guedes, qui a toujours été plutôt un adversaire assez ferme de l'alliance avec LFI, nous dire qu'en cas de second tour, l'élection présidentielle entre un candidat LFI et un candidat RN, il choisirait le candidat LFI. Donc c'est très quand même difficile de dire aujourd'hui quelle est la véritable stratégie du PS. Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir voir ce que font les électeurs et ce qu'on pense. Et si on regarde les sondages aujourd'hui...
Oui, j'allais y venir. Les sondages, eux, montrent qu'il y a quand même un déplacement de l'opinion. Hein.
Voilà, il y a quand même un déplacement, semble-t-il, de l'opinion. Et ce qui est très intéressant, y compris dans les métropoles de plus de 100 000 habitants. Ce qui veut dire que même, j'allais dire, dans le cœur électoral, plutôt... De la gauche, ou en tout cas des progressistes, comme l'on dit, il y a en tout cas des questions qui se posent sur la relation entre le Parti Socialiste et LFI.
Est-ce que, dernière question Arnaud Benedetti, parce que je crois que votre temps est compté, est-ce que la cloison sanitaire dont on parle toujours, est-ce que vous pensez qu'elle est déplacée ? Est-ce qu'elle va se déplacer à ce propos pour exclure complètement LFI du jeu politique ou est-ce que vous pensez que c'est une illusion ?
Elle se déplace, encore une fois, on vient de le dire, dans les sous-bassements de l'opinion publique, manifestement. Après, le jeu des appareils politiques, c'est autre chose. Aujourd'hui, on n'a pas le sentiment, quand on écoute encore une fois les responsables socialistes, qu'ils sont favorables à une étanchéité absolue avec LFI. Le problème, si vous voulez, de la gauche dans cette affaire, c'est que vous avez une gauche radicale qui est quand même forte électoralement. C'est le cas de LFI.
Oui, qui est même leader.
Ce qui rend beaucoup plus difficile, en effet, les marges de manœuvre du Parti Socialiste vis-à-vis de ce partenaire. On ne sait plus d'ailleurs si c'est un partenaire ou un associé rival. Donc, mais en tout cas, il y a cette réalité. Ce qui est quand même quelque chose d'assez nouveau au sein de la gauche depuis une quarantaine d'années, depuis une cinquantaine d'années même, puisque en général, dans l'espace politique de gauche, c'était plutôt les réformistes qui étaient dominants électoralement, notamment depuis que François Mitterrand avait refondé le Parti Socialiste et unifié le Parti Socialiste à Épinay. Il avait réussi, par rapport au Parti Communiste à l'époque, à imposer un rapport de force qui était favorable au PS. Là, on se retrouve dans une situation où finalement, on a un rapport de force qui est quasiment... équivalent, ou en tout cas parfois supérieur du côté de LFI selon les situations et selon les élections, ce qui évidemment rend vraisemblablement beaucoup plus compliqué pour le Parti socialiste le fait d'essayer de mettre une cloison étanche entre le PS et l'FI. Mais il risque aussi de perdre beaucoup. C'est-à-dire qu'il risque de perdre moralement, évidemment, ça c'est une évidence, mais il risque de perdre aussi, il risque d'y avoir un coup politique. Mmh. On va commencer à le mesurer aux élections municipales, mais attention, il ne faudra pas tirer des conclusions trop hâtives des élections municipales, même si l'enjeu sera nationalisé en raison de la proximité des élections présidentielles. Mmh. Il y a quand même des facteurs locaux qui, selon les circonstances, selon
les personnalités,
peuvent
etc.
aussi, ouais. et peuvent aussi jouer et un peu troubler la lecture des résultats.
Mmh. Mmh. Arnaud Benedetti, merci infiniment de nous avoir éclairé. Hein. À très vite, vous serez toujours le
merci
bienvenu.
À vous.
Au revoir
merci
Arnaud.
À vous. Plaisir, au revoir.
Oui, je voulais aborder juste après cela le volet médiatique.